Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Capitaine Marlowe.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je vous entends souvent dire...
Oh, tu vas sur un tournage? Je peux venir dans tes valises?
Ben voilà, votre souhait est aujourd'hui exaucé, je vous emporte avec moi. Il est 8h10, nous sommes à l'aéroport d'Orly, prêt pour le vol Air France 5527. Alors ouais, on ne va pas très loin. Je ne vous propose pas de venir dans des lieux exotiques, genre Hollywood ou Elm Street. Bon, mais quand même, vous êtes déjà venu à Dallas sur le tournage de Prison Break, hein. Et puis à Belfast sur le tournage de Game of Thrones, si je me souviens bien. Donc, ah non, ne râlez pas, hein. Bon, dans 1h15, nous arriverons à Brive-la-Gaillarde, parce que l'endroit où nous allons aller est tout bonnement splendide. C'est Gaspard de Chavignac, le producteur de la série, qui va nous y conduire. Nous sommes dans le Périgord noir, en Dordogne, une région absolument somptueuse. Je vous la recommande. Et je vous amène en plus dans un château. Au château de Bénac, c'est là où se tourne un nouvel épisode de Capitaine Marlowe, la série de José Dayan avec Corinne Maciero. Depuis 2015, cette série est un véritable pied de nez, bon, Corinne Maciero dirait un bras d'honneur, à tous ceux qui pensent que la télévision est morte, remplacée par les plateformes de SVOD, et que plus personne ne regarde des séries sur TF1, France 2 ou M6. Et bien sur France 3, Capitaine Marlowe réunit plus de 7 millions de spectateurs. Et 1 million de plus en replay. C'est quand même une part d'audience, pour la partie live, de 30%. C'est inimaginable.
Franchement, si eux c'est des terroristes, moi je suis Béatrice Dalle.
Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un pou?
Pardon?
Parce que c'est vrai. Quand Pardon je m'accroche, ouais, je leur ressemble comme ça, comme ça. Comme ça!
Waouh, oh la vache!
Oh ouais, un commentaire et c'est un mawashigiri direct dans le plexus.
Non mais vous êtes canon, capitaine.
Qu'est-ce que j'ai à te dire?
Mon coup préféré, les valseuses. J'adore Patrick Devers.
Marlowe, c'est un personnage truculent et atypique, une capitaine de gendarmerie qui, à bord de sa Range Rover, va où là son enquête la mène. Ce qui permet à la série de se dérouler dans tous les lieux de France possibles, un élément récurrent pour le diffuseur France 3, la chaîne des régions. Marlowe repère rapidement le gros suspect de l'enquête, le coupable probable. Elle ne va pas le lâcher d'une seule semelle. Et les suspects, ils sont interprétés par des Cadmera, des Benjamin Biolay, des Joe Star, des Isabelle Adjani. Voilà, que des grands noms. Marlowe, dont le nom s'inspire de Philippe Marlowe, le personnage de détective de Raymond Chandler, c'est donc Corinne Maciero. Elle est nominée au César en 2013 pour son interprétation dans le film Louise Vimer et elle va aussi être une des vedettes du film de Jacques Audiard, de Rouillé d'Os. On l'avait déjà entrevue dans des séries comme Engrenage, mais cela n'avait pas plus marqué que ça. Mais bon, allez, on n'a pas plus le temps de discuter. Ça y est, on est déjà arrivé, on est au château, et le tournage bat son plein.
Non, non, fais pas de ça, Berthaud, non. Fais pas d'impro comme ça.
4 sur 1, 3ème.
Action! Ah! Ah! Stop, stop! Stop, stop! Philippe! C'est moins bien, parce que lui, il s'est baissé pour ramasser je sais pas quoi, toi, ton épée, mais bon,
Alors bon, les chevaliers en armure qui se battent à coups d'épée, ce sont bien sûr des comédiens, mais des comédiens qui jouent le rôle de comédien, je veux dire, hein. Des comédiens qui incarnent donc des comédiens en train de préparer une pièce de théâtre, d'où l'ambiance un petit peu à la Game of Thrones, enfin, toute proportion gardée. L'épisode a pour titre « Sang et lumière », il se déroule auprès d'une troupe de théâtre et concerne la disparition de la femme du maire. Mais voilà, la scène maintenant est en boîte, on va donc en profiter pour approcher José Dayan, la réalisatrice. José a tourné de très nombreux téléfilms et séries pour la télévision, de Fred Vargas au Comte de Monte Cristo, en passant par une nouvelle version des Rois Maudits qui mettait en scène Jeanne Moreau et Gérard Depardieu. Nathalie Baye, Catherine Deneuve, Jean-Hugues Anglade ou Jean-Pierre Mariel ont accepté de tourner des séries ou téléfilms pour elle.
Vous dites que Capitaine Marlowe est à la fois votre création, mais aussi la création de la comédienne. Vous êtes un peu... le docteur Frankenstein et que elle, sa créature.
C'est, mais absolument. Mais je suis le docteur Frankenstein.
Alors justement, avant de reprendre bêtement ce qui est écrit dans ce magazine, vous voulez avoir votre version.
Mais c'est la vérité. Parce que, en fait, moi, j'ai connu Maziro quand on a tourné les Vargas. Hein. Elle faisait Rotencourt. Et on s'est très bien entendu. Je trouvais que c'était une actrice assez particulière. Donc, j'ai eu envie de retravailler avec elle. Et je lui ai proposé, quand on a fait avec Gaspard, Entre vent et marée, une mini-série pour la 3, avec, entre autres, Nicole Garcia et Muriel Robin. Il y avait une enquête qui était amenée par un gendarme ou une gendarme. Et j'ai proposé à Elsa Marpeau d'écrire le rôle pour Corinne Maziro, sans arrière-pensée d'ailleurs, je veux dire sans arrière-pensée par rapport à Marlowe, simplement pour qu'elle soit dans ce film. Et c'est vrai que on a, alors je lui ai expliqué un peu comment était Maziro parce qu'elle la connaissait pas, donc à partir de là, elle a quand même écrit un personnage un peu différent, mais nous l'avons créé de toutes pièces ensemble, parce qu'elle a sa personnalité, parce que j'ai la mienne, et puis voilà. On a décidé qu'elle avait ce 4x4, qu'elle avait cette chapka. On a déjà, vous savez, c'est Jeanne Moreau qui disait que quand on part pour faire un rôle, un acteur fait sa valise. Et dans sa valise, il met ce qui correspond au personnage. Parce qu'il faut être comme le personnage, il faut être ému comme le personnage et pas par le personnage. Donc, si vous voulez, le personnage de Marlowe, puisque déjà, entre vent et marée, elle s'appelait Marlowe. Au niveau, déjà, de son esthétique et de son look, on l'a créé ensemble. Voilà. Et c'est vrai qu'on était aussi inspirés parce qu'on tournait à Belle-Île et que c'était le tsunami. Donc, il fallait quand même qu'elle ait une chapka, qu'elle ait une parka, d'accord, qu'elle ait tout ça, parce que le temps était épouvantable.
On se demande, bon, cette chapka.
Qu'elle porte par tous les temps.
Oui, là, maintenant, elle a une chapka en là, maintenant, en été. Voilà. Et on a fait cette mini-série. Et on a vu à quel point son personnage avait quelque chose de particulier, de différent, etc. Et quand le film est sorti, moi, je me souviens que des gens m'arrêtaient dans la rue en me demandant « Mais qui est l'actrice qui fait la gendarme ?» J'ai dit « Bon. » Et ça allait de ma fromagère, très sympathique, Madame Barthélémy, qui vraiment l'adorait, à des gens que je connaissais pas, qui m'arrêtaient dans la rue pour me poser des questions sur Marlowe. Donc on a discuté avec Gaspard, qui par bonheur préside Passion Film et avec qui on s'entend très bien, et on a réfléchi, on s'est dit, et si on proposait de faire une collection autour de Marlowe. Et on a proposé cette collection à Anne Holmes, qui a eu en effet le courage dès le début de l'accepter, parce que c'était pas évident, c'était tellement particulier qu'il fallait vraiment jouer cette carte-là. Mmh. On a proposé aussi, parce que ça j'y tiens absolument, et Gaspard aussi d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'on a Marlowe, les guests ne soient pas un acteur lambda, mais un très très grand acteur. Gérard Depardieu m'a fait l'amitié d'accepter de venir dans le pilote, mmh, et à partir de là, on a eu vraiment une brochette d'acteurs, je trouve absolument magnifique. Et là, les trois derniers qu'on vient de tourner, on a un épisode avec Yolande Moreau qui est incroyable parce que le duo est insensé. Un autre épisode avec Nilsa Restrup qui est absolument magnifique. Comme moi, j'étais à l'IDEC et qu'on voyait par exemple les films noirs ou qu'on voyait les westerns, etc. Il y avait une analyse très pointue qui consistait à dire qu'on aimait toujours retrouver des points communs dans un personnage. Par exemple, dans un western, le vieux Doc, il a quelque chose de particulier, et quel que soit le western, qu'il soit de War Oaks ou de Ford ou de qui vous voulez, il y a ces personnages qui sont vraiment, qui font partie, si vous voulez, de ce style de film. Et Marlowe, évidemment, elle a maintenant son personnage ancré, et il y a sa façon d'arriver, de saluer les gens, d'enlever sa chapka, de la remettre, d'aller venir à son 4x4, etc., etc. Bien sûr, mais ça fait partie des incontournables. Il y a quelquefois le Jean-Claude Roux qui revient.
Oui, absolument.
Parce qu'elle fait appel à lui, parce qu'il est spécialiste des boyaux, des vaisseaux. Oui.
D'ailleurs, c'est génial de le revoir.
Mais absolument. Non. Et puis, il y a aussi quelquefois des assistants qu'elle retrouve.
Oui, c'est
parce
ça.
Que dans la police ou dans la gendarmerie, on peut être muté et elle les retrouve.
Le rouquin du
deuxième par exemple,
oui, ça
bien,
Brière oui. aussi, hein, voilà. Bon, elle retrouvera peut-être Julie Depardieu, on verra. Voilà, Julie Depardieu dans le film qu'on appelle Géraldine Pellas et Berling. Enfin, voilà, tout est possible.
Vous n'avez pas envie avec elle de lui créer, quand je dis une famille au sens large, à savoir un univers,
quelque
chose qui revient régulièrement, ou au contraire, non, au justement, contraire. Il faut surtout pas.
Non, au contraire, on ne veut pas.
C'est voilà. Ce que je me disais. Mais...
C'est ça son univers, c'est que qu'il n'y a rien autour. Voilà. Pas d'hiérarchie, pas de famille, pas d'enfant, pas rien. pas de chien même, alors que Colombo a un chien.
Oui, vous dites, bah,
et pas de mari.
Il avait dit, c'est pas moi, mais si, parfait.
Voilà, donc vous voyez, non.
Oui, c'est une femme, ouais.
Super.
Alors, là, puisque la porte est un peu entrouverte, on va pouvoir aborder le sujet qui fâche un peu, la filiation de la série Capitaine Marlowe avec Columbo. C'est d'ailleurs très très réducteur de dire ça, parce que c'est un petit peu plus large que ça. Capitaine Marlowe se rapproche réellement des Mystery Movies, ces séries que NBC puis ABC proposaient avec un très grand succès à partir de 1971 à la télévision américaine. Des épisodes plus longs que l'heure habituelle, parce qu'ils font 90, voire 120 minutes, moins nombreux, il n'y en a pas 24 par an, mais 5 ou 6 pour chaque série, et donc plus travaillés, plus précis. Bah, c'est exactement ce que fait José Dayan. Elle réalise 5 à 6 épisodes par an. Et au cœur de ces Mystery Movies, il y avait donc des enquêteurs têtus, opiniâtres, spécifiques, et chacun avec une personnalité bien trempée. Il n'y avait pas que Peter Falk dans le rôle de Columbo. Il y avait George Peppard, par exemple, qui incarnait le débonnaire détective privé Banachek. Il y avait Dennis Weaver, qui était le faussement naïf shérif à New York, McCloud. Il y avait le flic urbain, le vétéran Madigan, interprété par Richard Widmark, un rôle qu'il avait initié dans un film, Police sur la ville. Richard Boone, qui interprétait le détective Egg Ramsey en plein Far West. Et Rock Hudson, en commissaire de police de San Francisco, dans Macmillan. Bref, je vous conseille de revoir certaines de ces séries parce que, comme Banachek par exemple, elles sont disponibles en DVD et elles sont dans la grande tradition de l'enquête complexe, le whodunit, avec un enquêteur spécifique tel que les anglo-saxons savent parfaitement le faire. Donc, Marlowe, si on veut être parfaitement objectif, est beaucoup plus dans la tradition de ces enquêteurs télévisés là et pas uniquement de Columbo.
La filiation avec Columbo et Peter Falk est assumée ou c'est simplement dans l'air?
Non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, si vous voulez. La seule filiation qu'on puisse trouver, c'est qu'elle, au départ, elle a l'air d'être conne, comme oui. Columbo, voilà, et qu'on se dit c'est une conne, et puis finalement, elle n'est pas conne, voilà, c'est tout.
C'est ça, on est bien d'accord.
C'est le seul point commun.
Ah ben voilà, ça, là, on peut pas être plus clair, hein. Mais si j'évoque les enquêteurs anglo-saxons, ce n'est pas pour rien. Parce que les Britanniques se sont fait aussi une spécialité dans ces séries de téléfilms avec des enquêteurs hors du commun et truculents, oui, je sais, j'aime bien le mot. Et leur littérature leur en donne l'occasion. De Sherlock Holmes à Miss Marple en passant par Hercule Poirot. Ben justement, Hercule Poirot, le voilà. Ça y est, il est face à Marlowe. C'est le crossover de la mort qui tue, ce truc.
Action. Eh, bébé. Comment on dit en anglais?
Bon, en réalité, Marlowe n'est pas face à Hercule Poirot. Elle est face à Herbert White. Herbert White, c'est le personnage de l'épisode. Et Corinne Maciero donne la réplique à David Suchet, l'interprète inoubliable de Poirot et invité de prestige de cet épisode.
C'était un très très grand acteur. En plus, dans Hercule Poirot, il est exceptionnel. Mais il a une tonalité qui est évidemment... toujours la même, et c'est celle qu'on aime.
Ouais.
Là, en revanche, dans ce film-là, il y en a plusieurs. C'est un très, très grand acteur. Et en plus, c'est un homme merveilleux.
Bon, allez, on va laisser José Dayan travailler, hein. Et justement, on va aller le voir. Avec ma collègue de Télé 2 Semaines, on va donc frapper à la porte de la loge de David Suchet. Un acteur absolument délicieux avec qui j'avais déjà eu le plaisir de faire des interviews pour Poirot, justement.
I have to say, it's been one of the...
Je dois dire, c'est une des plus heureuses expériences de ma vie professionnelle. Oui, c'est absolument merveilleux. José et moi, on s'entend très bien sur le tournage. C'est une réalisatrice fantastique. Je passe un moment très agréable avec l'équipe, avec tout le monde, et très accueillant. Avec Corinne Maciero, elle et moi, on est de parfaits opposés, autant dans nos personnages que nous-mêmes. Elle, elle a un parcours professionnel très différent du mien. Elle a fait beaucoup de théâtre d'improvisation. Et pour des films, elle peut changer tous les dialogues. Moi, je viens d'un enseignement beaucoup plus formel, la Shakespeare Royal Company. Tout mon apprentissage a été plus classique. Moi, j'apprends mon texte, j'apprends avec du texte, quoi. C'est donc très différent, et en raison de cela, on s'entend extrêmement bien.
Mmh.
Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à la rencontrer, justement, Corinne Massiero. Mais là, ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qui se passe? Un caprice de star? Ben non, pas du tout. L'actrice est présente dans chaque plan. Le tournage est mené tambour battant, donc ben, elle n'aura vraiment pas le temps de nous donner une interview. De plus, son travail est bien moins aisé qu'il n'y paraît. Parce que comme me le confiait Mark Eisenstetter, le scénariste de cet épisode, à la différence d'une série policière classique où les guests doivent plonger dans l'univers de la série, ici, et je le cite, c'est l'héroïne récurrente qui plonge dans l'univers proposé par le scénariste de l'épisode et elle se confronte aux guests, de manière souvent imprévisible, aussi bien pour les personnages que pour les scénaristes d'ailleurs. Donc, on peut imaginer sans peine la concentration que cela représente pour elle.
Ça va les contentises ?
Capitaine.
Vous avez pas reconnu? C'est marrant parce que vous avez pas trop la tronche d'accueil de campagne, vous.
Mais vous ne ressemblez pas non plus tout à fait à l'idée qu'on se fait d'un gendarme.
L'habit fait pas le flic, hein, non plus.
Alors, nous allons prendre le chemin du retour. Retour donc sur Paris. Et nous allons patiemment attendre quelques semaines pour pouvoir parler tranquillement, dans une pièce, vraiment à l'écart et tranquille, à Corinne Massiero, en dehors de son tournage. La chance avec Capitaine Marlowe, c'est que vous êtes confronté à plein d'acteurs absolument fantastiques et formidables. En quoi ça a été différent avec David Suchet ?
C'est comme dans la vie, qu'est-ce qui fait que tu kiffes plus un échange avec telle ou telle personne ? Bien malin que celui qui pourrait répondre. David, ça a été... voilà, c'est comme ça, c'est une évidence. Enfin, tu vois bien, t'es dans la pièce avec lui, il dégage tellement... de l'écoute, de la bienveillance, de l'humour. Il est très perspicace, il est très curieux de tout, de plein de choses et des gens. Et sur un plateau, dans une équipe, il est comme ça avec tout le monde, pas qu'avec les acteurs principaux, etc. Il est comme ça avec tout le monde. Voilà, il y a des gens comme ça dans la vie qui sont des cadeaux. Et lui, c'en est un. Alors non seulement dans la vie, c'est un cadeau, en plus, c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses professionnellement, des choses dingues. Je dirais, il a joué dans les James Bond, il a fait, enfin, tu vois. Bon, il a plus rien à prouver à personne, et malgré ça, il est d'une humilité, une grosse claque, quoi. On est allé se balader ensemble parce qu'on était logés au même truc. Donc, quand on tournait pas, des fois, on allait ensemble visiter des machins, etc. T'as les gens qui le reconnaissent. Il est d'une gentillesse aussi, même s'il sait mettre des limites pour pas se faire écraser, tu vois.
Frontière, un peu.
Ouais.
Normal.
Ben, malgré ça, il arrive à faire admettre ses idées sans blesser personne, donc ça c'est une grosse leçon. Et puis sur un plateau, excuse-moi, mais alors, il envoie du bois, quoi, tu vois. C'est pareil avec. Après, il n'y a pas que David, hein, mais parce que Yolande, tout le monde. Voilà, donc lui, il est. Mais c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Donc il y a eu tout ça, toute cette. Parce que c'était très. Pour moi, c'était le plus. Pas le plus dur au sens. Ça a été l'épisode qui a demandé le plus d'attention, de concentration à cause de ce problème de langage. Et pour lui et pour moi, hein, et pour tout le monde. Mais du coup, au moment où ça se passait tellement bien, tu te dis, mais merde, on va pas y arriver, quoi. Puis si, non seulement on n'y est pas arrivé, mais en plus, c'était riche, 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 riche. Et quand il y a eu son dernier plan, moi, j'ai chialé comme une gosse, quoi. Parce que,
c'était là.
Mais vraiment, c'était pas prévu, parce que les derniers plans, en général, c'est un peu une façon polie de dire au revoir aux gens, quoi. Donc bon, on se dit, ouais, bon, puis c'est tout. Là, non, vraiment, c'était... voilà. Puis on a continué à échanger par mail et par SMS depuis qu'on se voit plus. Puis c'est quelqu'un dans la vie aussi qui vit des choses parfois pas faciles, comme tout le monde, tu
veux dire. Mais, comme tout le monde.
Mais qui les vit d'une manière tellement... avec la banane et... Voilà, c'est quelqu'un qui est conscient du privilège qu'on a de faire ce métier-là de cette manière-là. Mmh. Et qui, non... voilà, qui n'écrase pas les autres et qui se sert aussi de sa notoriété pour de manière citoyenne et humaine. Donc, quand tout ça est réuni en une seule personne, ça fait beaucoup, quoi.
Vous imaginiez, au début de Capitaine Marlowe, au début d'une série télé, pouvoir rencontrer autant de personnes? On est des Sandrine Bonnaire, des Muriel Robin, Victoria Abril, Pierre Arditi.
C'est un truc de dingue, c'est délirant. Hein.
Bon, moi, je vous avais vu dans la série Ainsi soit-il, mais là, avec ce succès populaire absolument énorme, la série vous permet d'être confronté, et je dis bien confronté...
Moi, je dirais pas confronté, parce
non,
que...
Mais,
tu vois, pour moi, les personnages, jouer, c'est pas pour moi, c'est pas un combat, c'est pas une compétition.
Ah, mais non.
C'est faire avec l'autre, c'est pas aller contre l'autre. Et que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre, pour moi, tu fais avec l'autre, que ce soit l'autre qui est le partenaire de jeu ou l'autre, le metteur en scène ou le réalisateur. Pour moi, c'est faire avec. Si ça devient faire contre, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vois pas l'intérêt, quoi. C'est en, justement en prenant, tu vois, des personnalités différentes, vraiment différentes, que ce soit dans la vie ou sur un plateau, que justement, c'est ça qui est riche. Bah, comme dans la vie, je veux dire, plus on est différent et plus on avance dans la richesse, chacun apporte, tu vois, c'est comme ça, sinon c'est incestueux.
Et comment faites-vous pour passer justement dans cette vie que vous ressentez à travers un autre acteur ou une autre actrice?
Sincèrement, je sais pas.
Parce que même si votre personnage est confronté au meurtrier, il y a quand même quelque chose qui se passe entre vous et l'autre interprète.
Ça, c'est la magie qui est orchestrée par, c'est comme, si tu veux, si je fais un parallèle avec la cuisine, c'est le mec ou la nana qui fait la bouffe, elle va prendre un petit peu d'épices de ci, un petit peu d'épices de ça, et ça et ça, et soit ça donne un truc qui est trop sale et trop sucré, ou pas assez ci, ou pas assez ça, et José, c'est la cuistot. Et elle, comme elle connaît énormément, qu'elle a travaillé énormément avec des tas de comédiens, célèbres ou non d'ailleurs, mais elle connaît les ingrédients, elle connaît les épices, sur le bout des doigts, et elle sait que si elle met un peu de ci, un peu de ça, si elle mange ça avec ça, ça va être détonnant, mais ça va faire du salé sucré super bon.
Et vous en discutez avec elle ou vous lui faites entièrement confiance là-dessus?
Jamais je me mêlerai d'un casting, jamais. Que ce soit avec José ou un autre, jamais. C'est-à-dire parce que c'est pas moi qui réalise. Le vrai maître d'œuvre, c'est celui qui réalise ou qui met en scène au théâtre. C'est lui qui doit tout faire. Parce que toi, quand t'interprètes, bah, t'as de beaux jeux, hein. T'arrives, tu fais ton truc, et puis salut. Elle doit préparer en amont, elle doit faire avec les scénaristes, elle doit faire le tournage et elle doit faire le montage.
Mais tu parles avec José des acteurs avec qui tu as envie, ou ça pourrait marcher ou pas marcher. C'est comme ça que ça se passe en fait?
Moi, j'en ai jamais parlé avec elle parce que je ne veux pas me mêler volontairement. Je veux vraiment pas me mêler du casting parce que c'est pas mon film. Si c'était moi qui dirigeais, oui. Mais là, c'est pas le cas. Et moi, quand je suis sur un plateau, ça m'est déjà arrivé au théâtre, par exemple, de me retrouver à jouer avec des gens avec qui je m'entendais pas du tout dans la vie. Mais pas du tout. Quand je dis pas du tout, pas du tout. Mm-hmm. Mais une fois que tu montes sur le plateau, quand je monte sur un plateau, que ce soit cinéma ou théâtre, mes affaires, je les mets au clou. Quand je suis là, je suis à la disposition d'eux. Mm-hmm. Après, ce qui se passe à l'intérieur, ça ne regarde que moi. J'ai pas à faire subir. Si j'aime pas, je peux pas blairer quelqu'un. Si je peux pas m'entendre avec, sur un plateau, c'est pas... voilà, je me démerde. Après, si la personne se comporte mal sur le plateau, là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais si je commence à dire, alors celui-là je l'aime pas parce qu'il a dit ça, celle-là je l'aime pas parce qu'elle m'a fait ça, bah tu tournes plus avec personne. Hein. Et puis je dis, c'est pas des psychodrames qu'on fait, c'est de la comédie au sens large. Donc chacun, et puis c'est pareil pour les gens qui viennent, hein, parce que moi je plais pas à tout le monde, hein. Heureusement, dans la vie tu sais bien comment c'est, on plaît pas à tout le monde.
Bien sûr.
Donc le travail il est fait pour... par moi et par les autres aussi. En même temps, José, quand elle propose le truc, ils peuvent très bien dire, bon, écoute, t'es gentil.
Mais voilà, ça, j'ai pas envie.
Mais voilà. Mais moi, jamais, même des gens avec qui je m'entends pas, je l'ai déjà fait, et ça, je m'en suis fait un point d'honneur. Au théâtre, ça m'est arrivé deux fois, les metteurs en scène se sont jamais rendus compte que je m'entendais pas, mais dans la vie, pas du tout. C'était au point, tu me parles pas en dehors. Hein. Personne ne le voyait. Je veux pas le faire voir. Je veux pas que ça se voit dans l'équipe parce que sinon ça fout le bordel, ça met mal à l'aise. C'est un peu comme des histoires de divorce. Tu divorces de quelqu'un, t'as des potes et t'as ceux qui sont pour, ceux qui sont pour machin.
C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Bien d'accord.
C'est dégueulasse de foutre mal à l'aise des potes par rapport à ça. Donc moi, si ça m'est déjà arrivé, tu vois, je me suis marié, j'ai divorcé, je vais pas commencer à dire tu tiens avec mon ex-mari, hein. Non. Ben sur un plateau, c'est pareil. Moi, j'ai qu'à fermer ma gueule. Si je suis pas contente, j'ai qu'à faire mon film. Et là, j'impose ce que je veux. Là, c'est pas mon cas. Marlo, c'est José. C'est pas moi. À 98%, Marlo, c'est José. Celle qui a tout créé, qui a tout imaginé.
Elle dit, tu es sa créature.
Mais oui, mais vraiment. Donc après, l'histoire de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la cuisine, c'est qu'elle sait tellement, en plus comme elle, c'est elle qui met en scène, donc elle sait très bien ce qu'elle a envie de voir dans les séquences. Elle sait qu'un tel ou une telle va donner ça. Elle, tu vois, l'histoire des couples, tu vois, quand on découpe,
elle voit très bien.
Elle sait où elle veut aller. Alors après, effectivement, arrivent des choses que tu peux pas imaginer, mais même quand c'est avec quelqu'un que tu connais bien. Heureusement, sur un plateau, tu sais pas tout ce qui va se passer. Non. C'est ça qui est beau.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve ça absolument merveilleux de tirer un tournage. Comment est-ce que tu appellerais cette improvisation une mise en bouche?
Ouais. Enfin, une mise dans ma bouche.
C'est
une mise dans ma bouche et dans ma tête. Parce que, par exemple... Bon, déjà, ça, je le fais pas qu'avec Marlou, je le fais sur tous les films. Mais, donc, je le mets dans ma bouche. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un... Souvent, tu sais, dans les scénarios, c'est des trucs écrits et c'est pas fait... Les dialogues sont rarement faits pour être des trucs de la bouche. Donc moi, je le fais comme ça. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est ma manière de faire. Puis après, y a des choses qui me font penser dans la séquence, il se passe telle chose, ça parle de tel truc, et du coup, ça me fait... Tiens, on peut rebondir sur un truc qui se passe dans l'actualité, ou sur un sujet qui me tient à cœur, ou sur une blague, tout bêtement, une blague que j'ai entendue, ou un clin d'œil que je veux faire à quelqu'un, ou une réplique qui me rappelle un film que j'ai bien aimé, c'est un hommage, je sais pas moi, une réplique d'Ablié, ou une réplique de je sais pas quoi, de Céro, ou peu importe. Donc ça vient en le faisant. Puis en réapprenant après, comme moi j'apprends, je m'enregistre, je réécoute et je réenregistre, hein. Donc après, puis tu penses, ah mais ça me rappelle tel truc, et clac, et tu remets. Donc ça,
c'est
du dialogue, tu vois.
Oui, donc c'est une sorte de répétition. Tous les dialogues, tu les reprends, tu les réenregistres, tu les réécoutes, tu t'enregistres.
Ouais, je réécris le truc, tu vois, j'ai pas mon sac, mais je te montrerai, j'ai le scénario, je réécris tout de suite, ta 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 ta. Après, quand je relis mes séquences, non, ça, je vais pas le dire comme ça. Ah, bah tiens, je vais ajouter cette réplique-là. Donc, je rebarre, je mets du stabilo.
C'est énorme comme boulot. Je veux dire, c'est carrément l'équivalent d'une répétition, de répétition, de répétition, quoi.
C'est énorme. C'est de la réécriture de dialogue.
Je comprends pourquoi, une fois sur le tournage, t'as pas envie de donner des interviews. Je comprends mieux maintenant.
Oui, non, mais
tu dois être valé, quoi. Ah. La tension, déjà, quand on est sur un tournage, il y a une tension nerveuse. Non, je comprends mieux.
Ah, oui.
Et je respecte les choses. C'est pas un problème, mais je veux dire que c'est intéressant de comprendre la démarche artistique.
Ben, tu sais, José, comme José, elle tourne très très vite.
Oui.
Si tu veux pas foutre les gens dans la merde, que ce soit l'équipe technique José ou les acteurs avec qui tu joues, il faut que tu sois au cordeau. Puis comme moi, je suis dans beaucoup de séquences dans Marlowe.
Ah oui,
donc il faut que ça arrive à chaque fois. Donc quand elle dit action, voilà, il faut pas se tromper, il faut y aller. Donc il faut être dans l'humeur tout de suite. Donc il faut que je sache mon texte sur le bout des doigts en laissant la place à l'impro. Et ça demande une concentration de dingue, ce qui fait que je fais une séquence. Puis tu vois, des fois, on tourne une fois, deux fois, c'est bon. Allez, on passe à la suivante. Mm-hmm. C'est pour ça que je déchire aussi les textes chaque fois, parce qu'il faut que, symboliquement, il faut que je me retrouve ailleurs. T'arrives sur une autre séquence tout de suite après, qui n'a rien à voir, avec des gens que des fois que tu n'as même pas rencontré avant, tu sais pas, des claques-là qu'on y va, qu'est-ce que c'est, ta. Ça demande une concentration extrême. Puis au moment où t'arrives dans le décor, tu fais « Ah ben attends, ce que j'ai imaginé là, ça marche plus parce que... » Ou alors « Tiens, il y a un accessoire qui fait penser que je pourrais faire ça » ou « Hein ?» Donc il faut être sur le coup tout le temps. Tout ça, pendant que les lumières se font et tout ça, t'as le bruit. Donc moi, en général, je suis comme ça, ou je retourne dans la caravane. Et je peux pas faire autre chose, c'est impossible. J'ai déjà essayé, c'est impossible. Je peux pas. Et quand on finit de tourner, si par exemple le samedi, le dimanche, on tourne pas, je continue de bosser. C'est non-stop. Non-stop. Alors c'est compliqué pour moi parce que des fois je fais... Au début j'arrivais à caser d'autres tournages, etc. Mais ça demande trop de...
C'est une concentration complète et totale sur le personnage.
Ouais, je bosse... Enfin, pas sur le personnage, sur les séquences. Sur ce qui se passe dans les séquences. Et donc je peux pas faire autre chose parce que au fur et à mesure que ça avance, ça me bouffe de l'énergie.
Donc,
je bosse, je rentre, je dors. Je fais que ça. Et des fois, il y a mon mec qui vient me voir. Il reste pas parce que je peux pas m'occuper de lui. Mes potes, c'est pareil, tu vois.
Mais attends, mais quand on...
Et si je le fais pas, bah du coup, j'oublie mon texte. On prend du retard. Je fous tout le monde dans la merde. Et ça, je veux pas, quoi. Parce que c'est la moindre des choses. Au moins, c'est de faire correctement son boulot.
Et le personnage, évidemment, tu le connais sur le bout des doigts. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire qui est le personnage.
Alors, tu dis personnage, mais moi, je parle plus séquence, tu vois. Parce que pour moi, d'accord, personnage, ça me parle pas. C'est... Moi, c'est la séquence. Qu'est-ce qui se passe dans la séquence? Quel que soit le personnage. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce que moi, je pense, c'est peut-être pas ce que José pense.
Tu n'adaptes pas ton personnage à la séquence. C'est la séquence qui crée le personnage à chaque fois.
C'est la séquence qui crée les dialogues. Moi, c'est comme ça que je bosse. Et quand je dis dialogue, c'est pas forcément des mots. Le dialogue, c'est par
le regard, des échanges.
Un échange, tu vois. Et ça, comme tu peux pas, si tu veux, si tu fais la séquence et que tu fais quelques répètes et tout ça, non. À la rigueur, tu peux dire bon, on verra une fois qu'on soit sur le plateau. Là, tu peux pas parce que on fait la mise en place technique. Alors, vous arrivez de là, ok, là, le plateau, t'as la lumière, et on y va. Tu peux pas te permettre de dire, je verrai une fois sur le plateau. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être opérationnel tout de suite. Et donc, il faut que je sois concentré, mais même, tu sais, quand ils viennent me chercher au pick-up, moi, j'ai mon truc, je vais te montrer. C'est comme ça que je bosse, moi. Voilà, gendarme qui se protège. Tu vois, j'ai tous les trucs comme ça.
Ah oui, d'accord.
Tout. Et donc, je les réécoute. Puis en réécoutant, je fais, oh, putain, non, là, ça sonne mal. Je change. Je regarde le texte. Qu'est-ce que je peux changer? Et l'autre, il me dit ça après. Ah ouais, mais alors, s'il me dit ça, peut-être je peux faire en sorte que les questions-réponses rythment plus, tu vois. Des fois, il y a un moment...
Bien sûr.
Qu'il faut qu'il y ait du timing. Mais ça, tu peux le faire qu'en amont. C'est pas au moment de la répète.
Non, mais c'est évidemment, c'est une grosse préparation en amont, bien sûr.
Et au moment où on joue... Vu qu'il y a des fois, il se passe heureusement des choses qui ne sont pas prévues, ou tu penses à des trucs, donc il y a l'impro qui arrive, mais pour laisser la place à ça, il faut que tu sois prêt au cordeau.
Ah, je comprends très bien cette rigueur dans le travail, et ça permet quand même d'avoir une grande vision artistique et une grande liberté.
Ouais, et une liberté, mine de rien, c'est t'autoriser à être libre à ce moment-là. Parce que si tu n'as pas, si tu es en train de dire putain j'ai galéré pour mon texte et tout ça, tu peux pas avoir cette liberté, sauf si tu t'appelles Gérard Depardieu et que tu as une magie comme ça. Par exemple, lui, il peut parfois utiliser la feuille, tu vois, dire le texte machin. Il dit ça, mais il sait son texte, hein, en tout cas. Et puis c'est un jeu qu'il joue aussi.
Ouais.
Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Tu t'essayes de le faire, je te jure, même si tu mets, comme lui, tu mets une feuille là. Va jouer comme il joue. C'est pas donné à tout le monde. Lui, c'est un monstre sacré. Ben, pour se donner cette liberté-là, il faut... chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai besoin de connaître le truc sur le bout des doigts. Et c'est pour ça que je suis obligé d'apprendre des répliques des autres. Ça me demande du travail encore plus. Il faut que je sache, parce que si l'autre en face, il veut changer son truc aussi, il faut que je sache à peu près de quoi il parle. Mm-hmm. Tu vois ? Parce que du coup, moi, il faut que je rebondisse. Tu vois le truc ?
Ah ouais, super.
Donc, moi, arrivé à la fin de journée, je suis lessivé de chez lessivé, je rentre. De temps en temps, José, elle nous invite au resto. De temps en temps, j'y vais pour quand même participer à
un peu de vie sociale.
Voilà. Sinon, moi, je dors, je me réveille, je travaille, c'est tout.
Voilà, grâce à Corinne Massiero et à José Dayan, et aussi grâce à David Suchet, vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'esprit qui règne, pourquoi Capitaine Marlowe est une série aussi différente, pourquoi est-ce que son interprète et sa réalisatrice sont aussi différents. Donc, maintenant, vous êtes prêts pour la prochaine enquête. La semaine prochaine, on ne va pas s'énerver, parce que si vous m'énervez, je vais devenir ouvert et je vais pousser des cris et je vais tout casser. La semaine prochaine, on parlera de l'incroyable Hulk. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.